Personne n'éduque personne, personne ne s'éduque seul. Les êtres humains s'éduquent ensemble par l'intermédiaire du monde.
Éduquer, ce n'est pas remplir un vase, c'est allumer un feu.
Vers l'éducation nouvelle.
Bonjour, vous êtes toujours sur Jet FM et vous écoutez Vers l'éducation nouvelle. Dans cette émission, on vous parle d'éducation, mais aussi parfois d'autres sujets qui nous touchent. C'est aussi un espace où on essaye de donner la parole à des gens qui ne l'ont pas ou qui l'ont peu. Et finalement, c'est aussi un endroit où nous, on expérimente, on essaye des choses pour se former à faire de la radio. Aujourd'hui, on va écouter une émission qui a été créée dans le cadre d'une formation d'animatrices et d'animateurs professionnels. Elles sont 6 et elles vont nous parler de la pédagogie des opprimés. Je ne vous en dis pas plus, je les laisse expliquer et je vous laisse profiter. Bonne émission.
Nous sommes au 102 rue Saint-Jacques, dans les locaux des CMEAP de la Loire, une association d'éducation populaire et d'éducation nouvelle. Sur les gobelets de l'association, on peut lire une phrase de Paulo Freire. Personne n'éduque personne, personne ne s'éduque seul, les êtres humains s'éduquent ensemble par l'intermédiaire du monde.
Personne n'éduque personne, personne ne s'éduque
personne.
Seul.
Les hommes s'éduquent
personne n'éduque personne,
personne ne s'éduque seul.
Les hommes s'éduquent ensemble par l'intermédiaire du monde.
Personne n'éduque personne, personne ne s'éduque seul.
Les hommes s'éduquent ensemble par l'intermédiaire du monde.
Et tout le monde.
Personne ne s'éduque seul.
Par l'intermédiaire du monde et tous ensemble.
Donc on est avec Élodie, une maman qui vient au café aujourd'hui, au café à l'abordage.
Je te donne ça m'évoque juste que l'éducation, c'est une histoire collective et pas une histoire individuelle. Pour moi, dans le personne n'éduque personne, il y a aussi la notion de... peut-être qu'on n'a pas à se donner des conseils quand on ne demande pas de conseils, quand ils n'ont pas été demandés. Peut-être que dans le personne ne s'éduque seul, c'est la question du collectif de toute façon qui revient. Et puis le par l'intermédiaire du monde, ça va plus loin que les êtres humains du coup. C'est l'environnement qui nous entoure. Je pense pas que ce soit le monde au sens être humain. Je pense que c'est vraiment la terre. Le vivant globalement, enfin même d'ailleurs le pas vivant. C'est assez intéressant parce que du coup, si c'est une pédagogie, oui Lucien.
Alors il y a un trou, une noisette est tombée par terre.
Eh ben c'est pas grave je crois. Si tu penses que c'est pas grave, ça doit pas être grave.
Je pense.
Oh ben très bien. Donc ça doit être, je sais plus ce que je disais. Oui, si c'est une pédagogie, ça doit être en lien avec le fait que dans la pédagogie, dans l'éducation, il y a la question probablement de l'expérimentation derrière ça. Puisque on s'éduque ensemble par l'intermédiaire du monde, donc on expérimente, on teste, on écoute. On n'a pas forcément besoin de conseils, de consignes. On joue avec le matériel, on joue avec les éléments. Voilà. C'est une jolie phrase. Okay.
On vient d'entendre une femme. Belle transition pour écouter un extrait de chanson écrite et chantée par des femmes et interprétée aujourd'hui en haut des montagnes entre deux amies. C'est une chanson qui historiquement date de 1971 par des militantes féministes à Paris. C'est devenu l'emblème du mouvement de libération des femmes.
Le temps de la colère, les femmes, notre temps est arrivé. Connaissons notre force, les femmes. Découvrons-nous des milliers de femmes esclaves et brisons nos entraves. Debout, debout, debout.
Retour au café à l'abordage avec une autre maman.
On est avec Suzy au café à l'abordage avec son fils qui s'appelle Elliot. Du coup, je vous montre la phrase. Enfin, je vous la laisse la regarder, prendre votre temps.
Personne ne séduque personne. Personne ne séduque seul. Les êtres humains séduquent ensemble par l'intermédiaire du monde.
Est-ce que ça vous parle ou pas, ou ça vous fait penser à quoi?
Si, bah, cette phrase me parle, oui. Je pense qu'en fait, on apprend tous ensemble comment fonctionne notamment la parentalité, parce que personne n'éduque personne. C'est vraiment, il y a pas de, je trouve qu'il n'y a pas de lien de c'est moi le plus fort, c'est moi qui décide, et en fait on s'éduque ensemble et on apprend ensemble en fait les choses. C'est-à-dire que oui, il n'y a pas vraiment le lien de tu m'obéis, c'est moi qui décide. C'est vraiment un esprit d'équipe, je pense, qu'il faut avoir. Et on apprend avec le temps, au final, par l'intermédiaire du monde. Oui. C'est vrai que c'est une phrase un peu compliquée, mais oui, c'est vrai que ça résonne pas mal. Et c'est vrai que personne ne s'éduque seul, c'est vraiment qu'il faut vraiment être épaulé, je pense, pour réussir à s'éduquer ensemble.
Ok. Merci.
Personne n'éduque personne. Personne ne s'éduque seul.
Personne
n'éduque
personne.
Personne n'éduque personne.
Personne
ne
s'éduque seul.
Personne
ne
s'éduque seul. Personne ne s'éduque
seul.
Personne n'éduque personne. Personne ne s'éduque seul. Les hommes s'éduquent ensemble par l'intermédiaire
et tout le monde.
Personne ne s'éduque seul.
Par l'intermédiaire
ensemble
du monde et tous ensemble.
C'était quoi déjà ?
C'était quoi ?
C'était quoi déjà ?
C'était quoi ?
C'était C'était A.
C'est la pédagogie des imprimés !
Salut ! Nous sommes réunis aujourd'hui pour discuter de la ou des pédagogies des opprimés, en compagnie de...
Gaëlle,
Coraline,
Mathilde,
Bérangère,
Pauline
et Marion. La pédagogie des opprimés est une pédagogie développée par Paulo Freire dans les années 60 en Amérique du Sud. Dans cette émission, on va vous parler de ce qu'il défendait au travers de sa pédagogie. Nous l'aborderons en allant découvrir d'autres méthodes et pratiques pédagogiques inspirées et issues des mêmes objectifs que ceux de Paulo Freire. Et pour aller plus loin, nous confronterons sa théorie à la critique.
Très bien. Alors du coup, est-ce que tu peux nous dire qui était Paulo Freire ?
Mais bien sûr. Alors, Paulo Freire était un pédagogue militant socialiste brésilien. Il est décédé le 2 mai 1997 à Sao Paulo. Fils d'une famille bourgeoise désargentée, il a souffert de la faim dans son enfance, ce qui l'amena à décider de dédier sa vie à la lutte contre la famine. Après des études de droit, il quitta rapidement le barreau après l'avoir intégré pour occuper un poste d'agent d'aide sociale. C'est sur la base de cette expérience qu'il développa sa pédagogie d'éducation des adultes. Dans les années 60, alors qu'il est directeur d'un service de l'université de Recife, il élabore un programme d'alphabétisation des adultes pour des milliers de paysans, qui sera appliqué par des volontaires dans tout le pays. En 64, la dictature s'installe au Brésil. Freire est incarcéré pour activités subversives. Il s'engage alors dans un combat pour les libertés avec l'éducation comme outil. Exilé au Chili puis en Suisse, il continuera à s'investir pour l'éducation des adultes. En 1974, il écrit son ouvrage le plus connu, basé sur ses expériences, « La pédagogie des opprimés ». Il rentrera d'exil au Brésil dans les années 80, où il terminera sa carrière en tant que secrétaire de l'éducation à la mairie de Sao Paulo.
Pour aborder les fondements, les finalités et moyens développés par Paulo Freire, nous allons tout d'abord aller découvrir des expériences de terrain, des pratiques pédagogiques inspirées de la pédagogie des opprimés. Nous sommes allés rencontrer Aude Baudouin, qui nous présente une expérience du théâtre de l'opprimé.
Salut Aude. Alors on est ici à la Convergence des Loutres, qui accueille régulièrement des formations en théâtre de l'opprimé. Et tu fais partie de l'association Si les sardines avaient des ailes, qui est une association de théâtre de l'opprimé. Alors, on va te demander si tu veux bien mettre en écho ton expérience de théâtre de l'opprimé avec la démarche de pédagogie des opprimés de Paolo Freire.
Bien, merci, Coraline. Et ben, peut-être pour commencer, je vous raconterai bien, moi, comment j'ai rencontré le théâtre de l'opprimé. Et donc, on est en 2002, en Inde. Et je viens participer à une formation interculturelle en théâtre de l'opprimé et en clown acteur social avec Parcourir le monde de Caravane Théâtre, qui bosse avec une ONG qui s'appelle JKSMS en Inde. JKSMS est une ONG qui a mis en place, par exemple, le premier numéro vert pour les enfants des rues et qui œuvre particulièrement sur le droit des femmes et le droit des enfants, et des enfants des rues particulièrement. Et à travers ça, ils ont différents projets de santé communautaire et aussi une troupe de théâtre de l'opprimé qui intervient avec des spectacles. Et donc là, ce jour-là, je vais assister à un spectacle de la troupe Caravane dans un petit village près de Jaipur, dans le Rajasthan. Et en 2002, ça fait 5 ans qu'il n'a pas plu en Inde. Et donc, c'est assez dramatique parce qu'après, les vaches, c'est effectivement les personnes et les personnes les plus fragiles, les enfants qui tombent malades et qui meurent. C'est voilà. C'est un drame et donc ils jouent un théâtre forum sur le sujet. Il y a quelques Français comme moi qui arrivent et les gens du village nous demandent de l'eau. C'est à Faghi, près de Jaipur. Et bon, bah, on ne sait pas trop, on est désarçonnés, quoi. On ne sait pas faire venir la pluie, nous. Et donc le spectacle va avoir lieu. Il parle d'exode rural lié à la sécheresse, de personnes puis familles qui vont en ville et qui ne s'en sortiront pas, ou quand ils reviendront au village, ça sera aussi dramatique avec des maladies, etc. Et donc le sujet parle vraiment aux gens du village, et donc dans le principe du théâtre de l'opprimé, on joue une première fois la scène, et puis ensuite on rejoue la scène, et les spectateurs et spectatrices peuvent intervenir en interrompant la situation au moment où eux, ils auraient dit ou fait autrement. Et donc en Inde, faut imaginer, c'est pas tout à fait comme en France, il y a tout de suite 400, 500, 600 personnes qui se mettent autour de la scène avec des hommes en blanc et puis voilà, plutôt groupés, et des femmes aussi qui sont groupées avec des saris très très colorés. Et dans la scène, avant que l'homme parte en ville, une femme intervient et monte sur scène et elle dit rien et elle commence à creuser. Et puis une deuxième femme vient et creuse avec elle à son tour, puis deux, puis trois, puis quatre, et puis elle se retrouve à 30 à creuser, sans rien dire, c'est très très puissant. En fait, elle creuse des réserves d'eau, en disant que bon, bah, dans cette situation, il ne reste plus que l'espoir, et l'espoir qu'il pleuve un jour. Et ce jour-là, comme en théâtre de l'opprimé, l'idée c'est qu'il y ait les personnes qui vivent la situation, mais aussi d'autres personnes qui peuvent être ressources, qui sont présentes. Il y a des gens d'ONG sur l'environnement qui sont là et ils décident de suivre le projet et ils vont donc en un an mettre une réserve d'eau en place dans ce petit village de Faghi. Il se trouve que je retourne en Inde en 2003 et à Faghi particulièrement, et il a plu et en fait la réserve a été construite, elle est remplie. Voilà, c'est juste magnifique. C'est peut-être le moment où je me suis dit, moi je veux faire ça toute ma vie, et peut-être même si ça marche qu'une fois comme ça dans la vie, c'est pour cette fois-là, ça vaut le coup d'en refaire un maximum. Voilà un peu, je ne sais pas si ça répond à la question de la démarche, du lien avec la démarche de Paolo Freire, mais c'est bien ça l'idée, c'est de pouvoir, avec l'empowerment, redonner le pouvoir et surtout la confiance en la capacité de chacun à transformer sa situation. Et donc, voilà, là, c'est d'autant plus particulier que c'est des femmes qui n'ont pas forcément la parole. D'ailleurs, elles ne l'ont pas prise, elles ont agi. Et ça a eu des répercussions immenses. Donc, voilà un peu comment moi, ça fait écho, mon expérience de Théo. Après, c'est que de la continuité de cette première expérience, où l'idée, c'est de transmettre une méthode à des personnes qui vont pouvoir la mettre en œuvre et trouver des pistes de solutions à leurs difficultés ou leur vécu d'injustice, quoi.
Ok, merci. Et on a une deuxième question, c'est est-ce que tu pourrais décrire ton lien avec les stagiaires et quelle posture tu poses en tant que formatrice dans le théâtre de l'opprimé ?
C'est toujours, même si ça fait 20 ans, c'est toujours en questionnement. Dans mon idéal, on va dire que dans des postures comme ça de formation, donc de transmission, on a des pédagogues qui sont très proches de leurs stagiaires, de leurs élèves, appelons-les différemment selon les contextes, hein, élèves quand on est en milieu scolaire. Il y a des pédagogues qui sont très proches de leur matière, et puis il y a des pédagogues qui œuvrent à rapprocher leurs stagiaires de la matière. J'ai plutôt envie d'être dans la troisième. Est-ce que j'y arrive ? Je ne sais pas. En tout cas, j'œuvre à ça. Donc, ce n'est pas tant mon lien, moi, avec les stagiaires que le dispositif et les dispositifs que j'essaye de mettre en place pour rapprocher les stagiaires de la méthode, en l'occurrence, que je transmets, qui est du théâtre de l'opprimé. Ça sera la même posture en clown acteur social. Et donc, peut-être aussi avec une visée, qui est un peu pragmatique, qui est que les personnes et que toute personne puisse se saisir de la méthode pour la réutiliser. Et se l'approprier. Et donc, vraiment, là, c'est peut-être un peu technique en théâtre de l'opprimé, mais en théâtre de l'opprimé, il y a bien sûr le public pour que ça fonctionne. Les comédiens et comédiennes qui sont sur scène, qui jouent la scène. Et puis, il y a un autre personnage qui est le Joker. On l'appelait le Joker parce que c'était toujours Augusto Boal qui est le fondateur du théâtre de l'opprimé et stagiaire de Paulo Freire qui a bossé avec lui. Et c'est de là aussi qu'il a pu mettre en œuvre cette méthode théâtrale. C'était toujours lui qui assumait ce rôle-là d'interface entre le public et les spectateurs. Et quand il n'était pas là, il fallait un Joker. Donc, c'est resté le terme de Joker. Donc là, c'est peut-être pas très pédagogie des opprimés, puisque c'était toujours Augusto Boal qui le faisait. Et donc, il y a là aussi un but assez rapide, c'est de faire en sorte que chacun, chacune puisse bien se sentir légitime et à l'aise à animer du théâtre de l'opprimé, parce que c'est pas tout de transmettre la méthode et de savoir jouer, mais s'il y a personne pour animer le débat, et si tout le monde se dit « Oh, je peux pas le faire, d'habitude c'est Augusto Boal qui le fait », ou Aude, si c'est moi qui ai animé toutes les séances de débat théâtral. Donc voilà, donc peut-être un des enjeux dans la transmission de la méthode de Théâtre Forum, c'est que les stagiaires se sentent bien à l'aise aussi pour, un, animer du Théâtre Forum et en faire, parce que plus on sera nombreux et nombreuses à pratiquer cette méthode et à la diffuser, plus elle pourra avoir un impact. Parce que si belle soit-elle, on a fini les 6 minutes, car aussi belle soit-elle, grandeur misère, si on l'a fait que ponctuellement et de manière un peu éparse, elle n'a pas beaucoup d'impact en termes de transformation sociale. Donc moi, ce qui m'anime, c'est de faire en sorte qu'un maximum de personnes puissent l'utiliser et à leur tour la transmettre. Donc après, les stagiaires, la posture, après, elle peut être un peu différente selon qui sont les stagiaires. Si c'est des stagiaires enfants ou adolescents, si... Voilà, quoi. Peut-être que ce n'est pas la posture qui est différente, mais les méthodes utilisées pour la transmettre, la méthode, voilà. Ou au Burkina Faso, tiens, prenons l'exemple, puisqu'on transmet ici en France, mais on transmet aussi à l'étranger, et donc où on ne peut pas y aller régulièrement. Et donc, il y a peut-être une autre urgence, il y a une espèce d'urgence à faire en sorte qu'ils puissent s'en saisir et la réutiliser sans trop la déformer. Donc voilà, ce qu'on a pu voir là avec les copains du Burkina Faso. On y a été 3 ans et puis cette année, c'est eux qui ont animé une formation de théâtre de l'opprimé. Donc c'est un peu ça le but. Là encore, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Donc quel lien j'entretiens avec les stagiaires ? Il y a le lien pendant le stage et puis il y a le SAV. Parce qu'en fait, et ça c'est très chouette, hein. Y a plein de personnes qui s'en sont saisies et qui continuent à la pratiquer et qui ont même monté des troupes un peu partout en France et à l'étranger. Donc, qui continuent à appeler, à poser des questions, à demander si on a des scènes ou si on a déjà fait ceci, cela. Donc, le lien avec les stagiaires, il est dans le temps de la formation, puis il est après dans l'après-coup, pour toutes les questions ou les choses qui vont arriver, pour leur permettre, voilà, toujours le même but, de se sentir bien à l'aise à le faire. Et qu'on soit bien nombreux à l'utiliser et à le retransmettre à notre tour. Moi, on me l'a donné comme ça, on m'a tout donné. C'est un monsieur qui s'appelle Jean-Pierre Bénard de Caravane Théâtre. Il n'a pas été du tout radin, quoi. Il s'est pas dit, mince, si elle monte une troupe de Théâtre de l'Opprimé, j'aurai moins de boulot, vous voyez. Ça peut pas être l'esprit du Théâtre de l'Opprimé. Donc, moi, on m'a transmis en me donnant tout. J'essaye de faire pareil. J'essaye de donner au moins à la hauteur de ce qu'on m'a donné. Voilà.
Ok. Merci beaucoup, Aude.
Merci.
Et maintenant, nous allons écouter un extrait du film « Mauvaise conduite » réalisé par Johanna Varin.
Mais non, papa, c'est pas du tout de ta faute. C'est moi qui suis comme ça. J'aime les hommes comme toi, t'aimes les hommes. C'est simple, non?
N'importe quoi. Ça s'est toujours passé de la même façon. Les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes. Pourquoi tu veux changer le monde tout d'un coup?
Mais papa, c'est pas que je veux changer le monde. C'est que je me sens bien avec les hommes, c'est tout.
L'inversion des normes, comme auparavant le théâtre de l'opprimé, sont deux outils d'accompagnement à la conscientisation. Nous ne pouvons pas vous lister l'ensemble des outils, mais en voici quelques-uns à la volée. Par exemple, le pas en avant, l'enquête de conscientisation ou encore le groupe de conscientisation.
Toi, toi, mon toi, 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 mon tout, mon roi.
Le moi antidialogique, dominateur, transforme le toi, dominé, conquis en un simple ça. Le moi dialogique, au contraire, sait que c'est précisément le toi qui le constitue. Il sait aussi que ce toi, ce non-moi, se constitue à son tour comme un moi en trouvant en lui un toi. Ainsi, le toi et le moi deviennent dans la dialectique de ces relations constituantes deux toi qui se transforment en deux moi.
Paolo Freire est le fondateur principal de la pédagogie des opprimés. Pour mieux comprendre ces grands fondements, nous vous proposons de faire ça sous forme
d'abécédaire.
Attention, nous avons volontairement réutilisé son vocabulaire. F comme forcément il y a de la praxis.
Praxis, praxis, qu'est-ce que c'est que ce mot, me diriez-vous? Et non, la praxis, ce n'est pas une marque de produits de consommation ou le nom d'une grande enseigne. C'est l'aller-retour constant entre l'action et la réflexion, portant sur des structures à transformer. Et cette théorie de l'agir passe par la prise en compte continuelle de l'expérience de vie de la personne.
R comme rien ne se fait sans conscientisation.
La conscientisation correspond, selon Paolo Freire, au déchiffrement de monde. Repérer ensemble, en groupe, quels sont les mécanismes d'oppression, en quoi nous sommes impactés dans notre vie quotidienne et comment, collectivement, on peut trouver des solutions pour transformer le monde. Paolo Freire parle également d'évolution, car chaque personne est un être qui évolue dans un contexte historico-social. On a imprégné de notre expérience passée, de l'expérience de nos ancêtres, et on agit en fonction de notre passé, mais aussi du contexte dans lequel nous vivons. Cependant, pour tendre à une conscientisation et à l'adhésion des masses, il faut avoir intégré l'existence de la relation ambiguë de l'oppresseur qui est en nous. Et c'est là que ça se complique. Ainsi, comme le dit l'auteur, les masses populaires, comme les leaders, doivent se défier des opprimés. Ce qui n'est pas exactement se défier d'eux en tant qu'hommes, mais se défier de l'oppresseur qui habite en nous. Et tant que les opprimés sont davantage l'oppresseur qui est à l'intérieur d'eux plutôt qu'eux-mêmes, leur peur naturelle de la liberté peut les conduire à mettre en cause non pas leur situation d'oppression, mais les leaders révolutionnaires eux-mêmes.
Comme, et bien sûr, l'action dialogique et antidialogique.
L'action dialogique permet de distinguer le leader révolutionnaire de l'oppresseur, de l'élite dominatrice. Comme le dit Paolo Freire, les leaders révolutionnaires qui ne seraient pas dialogiques à l'égard des masses ne seraient pas révolutionnaires, ou bien se tromperaient lourdement. Ainsi, le leader révolutionnaire et le peuple tendront vers
l'union
pour lutter contre la
division
menée par les oppresseurs. Tout comme ils encourageraient la
coopération
en opposition à la
conquête. L'organisation
leur permettra, elle, d'éviter de tomber dans les travers des techniques de
manipulation
qui sont propres aux oppresseurs. Pour finir,
la synthèse culturelle
viendra contrer l'invasion culturelle pour permettre la création d'une culture commune et désaliénée.
I comme indispensable que sont l'amour, la confiance et l'espoir.
Pour ce point, on va plutôt laisser la parole à Paolo Freire, parce qu'on n'aurait pas su le dire mieux que lui. Il n'y a pas de dialogue sans un amour profond, pour le monde et pour les hommes. Il n'est pas nécessaire de dire le monde, réalisant ainsi un acte de création et de recréation, sans se fonder sur l'amour. La confiance s'instaure avec lui. La confiance rend les êtres dialogiques et de plus en plus solidaires pour dire le monde. Elle ne peut exister si la parole dénaturée ne correspond pas aux actes. Dire une chose et en faire une autre, en ne prenant pas la parole au sérieux, c'est décourager la confiance. Et la fusion ne se produit que si l'action révolutionnaire est réellement humaine, et donc sympathique, aimante, communicante, humble et orientée vers la libération.
Aircom, regarde qui est là, c'est le leader.
En parcourant des extraits du livre de Paolo Freire, ce mot revient très fréquemment. Exactement 3785 fois. Le leader amène les personnes à repérer les techniques de manipulation, de division que peuvent mettre en place les oppresseurs. Il parle même de chemin de libération collective. Sa posture y est centrale. Sa démarche doit être basée sur un enrichissement mutuel.
E comme éclatante sera la révolution.
Selon lui, il ne peut y avoir de transformation sociale sans perspective révolutionnaire. Il faut qu'elle soit dynamique et évolutive. Comme il le dit lui-même, une révolution authentique veut transformer la réalité qui déshumanise les hommes. Il rajoute aussi, ce que cherche la révolution, c'est le dépassement de cette situation et l'avènement d'une situation d'homme engagé dans un processus continu de libération.
Et maintenant, pour vous laisser le temps
de digérer tout ça.
Exactement, petite pause musicale avec « Je suis fille de » par la chorale des Las Mari Posas.
Je suis fille de marin qui traverse la mer. Je suis fille de soldat qui déteste la guerre. Je suis fille de forçat, criminel évadé. Et fille de roi trop pauvre à marier. Fille de coureur des bois et de contrebandier. Enfant des sept nations et fille d'aventurier. Métissée sans mêler, bien qu'on me l'ait caché. C'est un sujet de honte, j'en ferai ma fierté. C'est un sujet de honte, j'en ferai ma fierté. La 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 la. Je suis fille d'Irlandais, poussée par la famine. Je suis fille d'Écossais, vu crever en usine. Dès l'âge de 8 ans, 16 heures sur les machines. Mais Dieu sait que jamais je n'ai courbé les chines. Non, je suis restée droite, là devant les patrons. Même le jour où ils ont passé la conscription. Je suis fille de paysan et fille d'ouvrier. Je ne prends pas les armes contre d'autres affamés. Je ne prends pas les armes contre d'autres affamés. La 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 la. Refusant de servir de chair à canon, refusant de mourir au loin pour la nation. Une nation qui ne fut jamais vraiment la mienne. Une alliance forcée de misère et de peine. Celle du génocide des premières nations. Celle de l'esclavage et des déportations. Celle de l'esclavage.
Après cette interlude musicale, nous avions envie de débattre un peu plus sur cette pédagogie. Bérangère a été à la rencontre du groupe de parole de femmes agricultrices, du CIVAM 44 et du collectif des Mégères de Châteaubriant. Voilà un extrait critique de la pédagogie de Paolo Freire.
Donc vous avez lu le texte que je vous ai envoyé par mail, Pédagogie des opprimés. Et au vu de vos expériences, groupe femmes agricultrices du CIVAM 44, et du collectif rural féministe des Mégères, vous allez pouvoir nous donner un peu vos retours, vos questions, vos frictions, tout ça.
Alors moi, en fait, à la lecture donc de ce texte, La pédagogie des opprimés, je me suis sentie quand même vachement méprisée. Hein. J'ai quand même vu quelqu'un qui étudie les opprimés, tu étudies les opprimés. Et j'ai trouvé ça quand même tout à fait condescendant. Et j'ai vu aussi que ça parlait d'un universel masculin, qu'on faisait peu de place à d'autres formes d'humanité. J'ai trouvé que c'était une personne qui s'intéressait assez peu à déconstruire ses privilèges intégrés. On ne sait pas d'où il parle, il n'est pas du tout situé, il ne parle pas de lui. Donc c'est assez surprenant pour quelqu'un qui vient libérer les opprimés. Et j'ai trouvé aussi qu'il parlait des opprimés comme d'un groupe vachement homogène. Et ça m'a questionnée, voilà.
Et notamment, moi, il y a un manque très important qui m'est apparu dans la méthodologie, que par ailleurs, il y a tout un tas d'endroits que j'ai trouvé intéressants, mais il manque tout un tas de... Enfin, on n'a aucun élément, en fait, sur la constitution des groupes dans lesquels le leader révolutionnaire intervient. Ça n'est même pas posé. Le début de la méthodologie, il est le groupe est déjà constitué. Donc, nous, par rapport au groupe femmes que j'ai eu la chance d'animer pendant un petit paquet d'années, c'est des personnes, des agricultrices elles-mêmes, en fait, qui sont venues me chercher avec... le fait qu'elles avaient identifié des difficultés qu'elles partageaient, elles imaginaient que c'était lié au fait que c'était des femmes dans un milieu hétéropatriarcal et en plus dans un métier dit masculin, en tout cas valorisé énormément par et pour les hommes. Et donc c'est comme ça que moi je me suis retrouvée à animer ce groupe-là. Et c'est comme ça que j'ai eu aussi la légitimité de pouvoir leur proposer des outils, méthodes pour les faire parler de leurs besoins, de leurs difficultés et essayer de... y répondre. Et c'est aussi grâce à ça qu'on a pu construire de la confiance mutuelle qui est absolument nécessaire et qui ne peut pas être exigée de qui que ce soit. C'est quelque chose qui se construit. Voilà. Donc, ça m'a fait beaucoup avancer moi aussi. Ça a permis qu'on conscientise ensemble les questions liées au féminisme notamment, puisque moi j'ai beaucoup cheminé avec elle. Et du coup, ce que je trouve dommage dans le texte de la pédagogie des opprimés, bien qu'il y ait plein d'éléments qui aient fait écho et qui m'aient plu, c'est que, en fait, ce que je viens de raconter sur ma propre expérience, c'est ce qui semble être prôné dans le texte, mais c'est pas incarné par l'auteur dans sa manière de nommer les choses et de les décrire non plus, quoi. Il y a plein de contradictions et du coup, ça procure certains doutes sur la sincérité de l'auteur, quoi.
Vraiment, pour nous, l'animatrice, c'était une personne qui était très à l'écoute. Il y avait beaucoup de confiance, il y avait de l'empathie. Vraiment, une forme d'amour et une joie à être là. Il y avait aussi, on partageait de l'espoir. Et puis, en fait, la posture d'animatrice dans le groupe femmes, c'était aussi une posture de très grande humilité. C'était une personne qui venait aider à l'empuissancement individuel et collectif, qui aidait le groupe, qui faisait accoucher le groupe de ses propres besoins, de ses propres idées, de ses propres projets. Et ce n'était pas du tout une posture qui était là pour faire adhérer à un programme ou à une idée. On n'était pas en train de suivre un leader. On était vraiment soutenu par une personne humble et aidante. Donc voilà. Et pour ce qui est de l'expérience avec le collectif des Mégères, nous, en fait, on n'a pas du tout d'animatrice, on n'a pas du tout de leader désigné. Personne ne prend ce rôle. Et on a vraiment plutôt constitué ce groupe sur une base d'horizontalité. Et l'idée, c'est vraiment qu'on s'accompagne les unes les autres. On s'accompagne politiquement, on s'accompagne émotionnellement et on s'accompagne aussi dans des actions concrètes.
Du coup, je rejoins Élise, je crois, du coup, l'animatrice, ça a été moi un bon gros moment. Et sur la question de l'humilité, c'était pas quelque chose qui était pensé et réfléchi, ça a découlé quand même du fait que j'ai une admiration de base énorme pour le milieu agricole, les agriculteurs et les agricultrices, qui pour moi sont des gens qui font un boulot de fou. Et on s'est dit en préparant cette interview que c'était quelque chose d'hyper indispensable dans la place du leader révolutionnaire tel qu'il est nommé, de son rapport aux personnes qu'il est censé accompagner ou animer, et qui finalement il devait y avoir une admiration inversée entre guillemets par rapport à ce qu'on ressentait dans le texte. Je sais pas si je suis très claire, mais voilà. Bref, donc en gros, le praxis tel qu'il est abordé et les différentes étapes méthodologiques, la co-construction des programmes de formation et des programmes des thématiques, les outils et méthodes, tout ça, ça me va bien. Ce qui m'a mis mal à l'aise aussi, c'est qu'il y a des exemples concrets qui sont complètement contradictoires. Par exemple, l'exemple de Gabrielle Bode, où en fait c'est une personne qui se retrouve à animer un groupe de paysans chiliens et qui n'arrive pas à les faire sortir de discussions où ils sont vraiment ancrés sur des questions pratico-pratiques et du vécu et des expériences personnelles, et qui n'arrive pas à les faire synthétiser, qui n'arrive pas à leur faire prendre du recul. Et on dit que, et en gros, la conclusion, c'est de dire que c'est parce qu'ils sont un peu... ils n'arrivent pas à dépasser leur expérience, que c'est limitatif, et que... Enfin, la manière dont c'est formulé, en gros, c'est les paysans qu'on galérait, enfin, qui n'y arrivaient pas et qui n'étaient pas doués. Alors que moi, ma lecture, en tant que praticienne, du coup, a priori, d'une certaine pédagogie des opprimés, d'après ce que j'en comprends, en tout cas de méthodes qui sont en son proche. Pour moi, c'est l'animateur, ou là, le leader, Gabriel Bott, qui a complètement chié dans la colle et qui n'a pas du tout bien fait sa mission. Donc voilà. Et du coup, la forme du paragraphe, elle est vraiment questionnante par rapport à qui a la responsabilité de quoi. Et donc, la posture de l'animateur, l'animatrice, l'éducatrice ou le leader révolutionnaire, suivant comme on a envie de l'appeler, elle est primordiale, et là, elle n'est pas forcément présentée d'une manière très flatteuse. Et du coup, par contre, la question du praxis en tant que tel, c'est quelque chose que je trouve hyper important. Et en effet, c'est ça qui permet pour moi d'avancer collectivement, c'est d'alterner réflexion, action, ou que ça soit simultané. Au niveau du groupe femmes, par exemple, on avait des alternances avec des journées de co-résolution de situations concrètes vécues dans les fermes, qui étaient toujours alternées du coup avec une mise en mouvement des agricultrices qui... posaient des changements très concrets dans leur ferme et qu'ensuite on remettait dans la réflexion et la discussion à la journée suivante. Donc on alternait vraiment ces deux choses-là. Et il y a aussi de l'action collective très concrète, des formations dans le fer, de la conduite du tracteur, du travail du métal, et des actions politiques vers le grand public, d'organisation d'événements, de prise de parole publique, d'intervention en milieu scolaire. Et ça manque un peu aussi, je trouve, dans le texte là, c'est que l'action, elle n'est pas trop définie. On ne sait pas si c'est de l'action individuelle, de l'action collective, qu'est-ce qu'il entend par là. Voilà. Et au niveau des mégères, c'est ce qu'on fait aussi pour moi. Le praxis, il est présent à fond. Moi, je suis une participante là-dedans. Et en fait, le fait d'alterner réflexion et action, ça génère vraiment, je trouve, de la solidarité, de la sororité entre nous, qui nous permettent de porter des actions politiques et qui sont quand même pas si simples, notamment dans le milieu rural où tout le monde se connaît. C'est pas pareil que de porter des actions politiques en milieu urbain où tu peux changer de quartier et puis croiser 4000 nouvelles personnes. Voilà, et il n'y a pas de rôle de leader dans ce groupe-là, ou alors il est tournant. Chacune, en fait, ponctuellement, va prendre ce rôle en fonction du projet qu'elle a envie de vivre et qui fera écho à d'autres participantes, que ce soit des arpentages ou des actions à l'extérieur du groupe.
Et voilà. On peut se déboulonner les unes les autres aux mégères. Voilà. On peut se dire à un moment donné, tu prends trop de place ou tu coupes la parole et ça ne va pas. Et donc, on peut se remettre en cause individuellement, collectivement. On va vraiment se chercher sur nos privilèges intégrés. On a une vigilance collective sur cette question-là. Et en fait, ça, c'est hyper précieux aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une personne qui a ce rôle d'aller déboulonner les autres. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et c'est aussi parce qu'on est dans un cadre plutôt, enfin, vraiment bienveillant et qu'on a une grande confiance les unes dans les autres. On sait qu'on est toutes des opprimées par l'hétéropatriarcat. Et du coup, on a confiance les unes dans les autres pour avancer ensemble. Et ça, c'est trop chouette parce que c'est fait vraiment en écoutant les émotions, en travaillant sur l'écoute des ressentis, avec plein de confiance et plein d'amour. C'est trop cool.
Merci à toutes pour ces échanges. Si maintenant vous avez envie d'aller plus loin ou d'en savoir plus, vous pouvez aussi jeter un œil à d'autres courants pédagogiques en lien avec la pédagogie de Paulo Freire. En voici quelques-uns en vrac. Alors, il y a les démarches de community organizing. Il y a aussi tout le travail d'Adeline de l'Épinay, que vous pouvez retrouver soit en podcast, et notamment aussi son livre qui s'appelle « Organisons-nous ». Il y a le projet de la Casse Santé à Toulouse qui parle de santé communautaire. Il y a également la recherche communautaire. Et un petit dernier, il y a aussi la méthode de Saul Alinsky.
Et pour finir, on a eu envie de diffuser une chanson révélatrice de l'impact d'une oppression sur la vie quotidienne. Elle s'appelle « Masculin féminin » de Claude Michel et elle est interprétée par les Punk à chatte.
Entraîneur disait mon père,
meilleure dont l'équipe est toujours première. C'est une entraîneuse, disait ma mère, c'est une catin, une moins que rien. C'est un entraîneur, disait mon père, il peut être fier, c'est quelqu'un de bien. Une entraîneuse, disait ma mère, y a rien à faire, c'est une putain. C'est un coureur, disait mon père, qui laisse les autres loin derrière. C'est une coureuse, disait ma mère, c'est une catin, une moins que rien. C'est un coureur, disait mon père, il peut être fier, c'est quelqu'un de bien. C'est une coureuse, disait ma mère, y a rien à faire, c'est une putain. Professionnel, disait mon père, qui réussit dans les affaires. Professionnel, disait ma mère, c'est une catin, une moins que rien. Professionnel, disait mon père, il peut être fier, c'est quelqu'un de bien. Professionnel, disait ma mère, y a rien à faire, c'est une putain. Comme il a très beau caractère, c'est un homme facile, disait mon père. Une femme facile, disait ma mère, c'est une catin, une moins que rien. Un homme facile, disait mon père, il peut être fier, c'est quelqu'un de bien. Une femme facile, disait ma mère, y a rien à faire, c'est une putain. C'est un beau gars, disait mon père, qui fait la fierté de sa mère. C'est une belle garce, disait ma mère, c'est une catin, une moins que rien. C'est un beau gars, disait mon père, il peut être fier, c'est quelqu'un de bien. C'est une belle garce, disait ma mère, y a rien à faire, c'est une putain. Il faut dire que le vocabulaire que l'on emploie au masculin n'a pas le même sens de toute manière quand on le met au féminin. N'a pas le même sens de toute manière quand on le met au féminin.
Nous allons donc pouvoir clôturer cette émission et remercier les gens qui y ont participé.
Alors merci à la Convergence des Loutres et à Aude, au Punk à Chatte,
au Café à l'abordage avec Suzy et Elodie, à Milou et Élise du collectif des Mégères de Châteaubriant
et à Pascal
Obispo.
N'éduque personne, non personne. Oh yeah. Ne séduque seul, non personne.